Guillaume Heras, nous continuons ce Radio Barque, alors, dont je rappelle qu'il est le premier de la saison, d'une 9e saison, ce qui montre déjà la relative ancienneté de cette émission. Vous êtes maire de la commune de Saint-Marcel-sur-Aude, on a déjà évoqué ce qu'est cette commune, et notamment, on a terminé là-dessus, mais on va y revenir un petit peu, sur ce qu'on appelle alors, aujourd'hui la résilience, la résistance est essentiellement aux catastrophes. Que faites-vous exactement donc pour faire ce qui peut être fait? Parce qu'il faut pas dire, il faut ne pas raconter des bêtises aux gens et leur laisser croire que tout est possible.
Ah non, il faut vraiment un discours de vérité là-dessus. Donc déjà le risque d'inondation, il est présent.
Il est
c'est
là,
l'acculturation
et il sera toujours
et
là.
Vivre avec. Voilà. Donc on vit avec et on se prépare. On sait très bien que nous aurons encore des inondations. Mais pour autant, moi je salue le syndicat mixte de centre, le SMAR et l'État qui ont financé une étude. Ça fait 3 ans que des ingénieurs travaillent sur la modélisation des inondations de Saint-Marcel. Il faut savoir qu'on a l'Orbieu, on a la Cesse, on a
oui,
le fleuve Aude, le canal
quoi.
De Jonction, on a l'eau qui arrive donc du fleuve Aude, des Corbières et du Minervois sur un point très étroit. Donc ils sont en train de travailler et il va y avoir un rendu d'étude d'ici 15 jours sur les possibilités de protection. Alors, moi, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. On sait très bien que, par exemple, curer un fleuve, ça ne sert à rien. Parce que, vu les volumes d'eau qui passent, c'est 2 piscines olympiques à la seconde quand on est en crise. Donc, c'est pas en curant quelques mètres cubes qu'on va arriver à gérer ces 2 piscines olympiques à la seconde.
Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On élargit les cours?
On fait confiance aux techniciens, aux ingénieurs qui travaillent sur la proposition des solutions. Peut-être qu'un endiguement sera proposé. Il y a un aspect financier aussi. Mais ce qui est préoccupant, c'est que le risque est là de plus en plus souvent, on le sait, avec le changement climatique qui est une réalité, hein, qui a été contestée longtemps, mais aujourd'hui on ne peut plus le contester. Donc
on est au pied du mur et il faut voir la vérité en face.
Voilà,
et c'est votre rôle à la fois de travailler avec ces techniciens et ces bureaux d'études et ces ingénieurs, mais surtout de faire passer le message à la population en leur disant sachez bien que ça arrivera d'autres fois et préparez-vous à y faire face du mieux possible.
Tout à fait.
Et alors un petit mot encore sur votre commune Saint-Marcel. Bon, on sait qu'un maire arrive toujours avec des projets et qu'ensuite il se met au travail pour les concrétiser.
Oui, effectivement, on a beaucoup de projets et donc revitaliser le centre ancien, on va le revégétaliser là en travaillant avec la population, on doit refaire la mairie, on va déposer les demandes de subvention pour la mettre en accessibilité. On a besoin d'un ascenseur et
de créer tout à fait.
Et on doit faire aussi un parc de loisirs avec un skatepark dedans. On doit rénover le gymnase. On doit aménager. Je ne sais pas si vous voyez à l'entrée à droite, on a détruit une maison pour la réaménager en parc à l'entrée pour faire que cette entrée soit belle. On a déjà fait des choses aussi. On a traité les entrées de village qui sont maintenant magnifiques.
Il y a une belle porte majestueuse à l'entrée de Saint-Marcel.
Et on l'a reproduite d'ailleurs en métal avec l'entreprise Courrières qui a fait une belle œuvre d'art que nous avons mise sur un rond-point juste à la sortie de Saint-Marcel.
Ah, une reproduction.
Ouais, c'est très joli, très joli.
La porte bis.
Oui, c'est ça. Non, on a beaucoup de projets et le temps manque.
Donc, vous aurez encore de quoi dire dans les prochaines émissions. Mais, Guillaume Heras, revenons à cette responsabilité alors, très importante que vous avez dans le Grand Narbonne, donc premier vice-président. Il y en a combien? 12, 13
15.
À 15, bon, je retarde un petit
peu. Et les délégations le méritent parce que l'agglomération est une entité qui regroupe beaucoup de compétences et qui est la réunion de 37 communes,
voilà.
Donc la ville-centre, mais aussi 36 autres communes du territoire.
37 communes avec un budget de pas loin de 100 millions.
Alors le budget cumulé général, c'est 180 millions d'euros environ. Qu'on y place le fonctionnement ou l'investissement. Et après, on traite un budget annexe. et budgets annexes qui peuvent aller du budget environnement.
Le traitement des déchets. On va revenir sur le vôtre. Oui, donc ça représente des sommes considérables. Du personnel, c'est pas loin de 500 personnes aussi, salariés.
Tout à fait. Avec une forte saisonnalité.
Oui, en plus.
Un peu moins de 100 saisonniers que nous prenons chaque année, parce que nous avons tout le littoral audois et qui a une forte augmentation démographique du fait de la beauté de ce littoral et de l'intérêt que les touristes ont à venir chez nous pour l'occuper, bien sûr.
Oui, voilà.
Donc il faut augmenter les équipes pour traiter les déchets, pour gérer les stations d'épuration, pour...
La saisonnalité est particulièrement importante dans une zone comme la nôtre, quoi.
On peut passer de 130 000 habitants à plus de 350 50 000 entre le 14 juillet et le 15 août.
Donc il faut du monde pour gérer tout ça. Alors donc, on le voit par le budget et par le nombre de personnes qui y travaillent. Vous avez la responsabilité de ce qu'on appelle l'environnement, essentiellement la collecte des déchets. On va voir que c'est un... Alors d'abord, combien de personnes qui travaillent?
C'est environ 200 personnes.
200.
C'est la collecte et le traitement des déchets.
Oui.
La collecte s'organise de plusieurs façons et on collecte plusieurs déchets. Il y a l'apport volontaire en déchetterie. On a 18 déchetteries sur le territoire, un territoire très bien maillé en déchetterie.
Et donc là, maintenant, on est arrivé à peu près à combler ce qu'il fallait, ou il en manque encore?
Vous savez, certains services de l'État nous disent qu'on est trop doté en déchetterie.
Sûr.
Et nous portons justement une vision de proximité.
Mais comment on peut être trop doté?
Certains territoires, l'ADEME nous a expliqué que, par exemple, au nord de Marseille, sur Vitrolles, pour le même bassin de population, il n'avait que 3 déchetteries.
Ah oui, mais alors c'est pas une bonne comparaison.
Non, non, c'est effectivement les arguments que nous avions.
Il faut pas viser plus bas, il faut viser plus haut. Donc aujourd'hui, on est bien.
Il faut faciliter le geste de tri. 18 déchetteries sur le territoire qui maillent totalement le territoire et qui collectent environ 45 000 tonnes de déchets. Et en déchetterie, vous avez l'accueil des agents de déchetterie. Aujourd'hui, ce sont des agents qui sont multicartes et qui ont évolué dans leur fonction parce que ils vont recevoir à la fois les déchets verts, à la fois, alors bien sûr, les encombrants, mais l'écomobilier, le vieux mobilier, ils vont recevoir les D3E que nous appelons, les équipements électroniques qui vont avoir une filière de recyclage. Les cartons, les huiles, les peintures, les matières dangereuses.
Ah oui, ça demande un certain nombre de connaissances techniques.
Et là...
Combien d'employés sur ces 16 déchetteries?
Alors, il faut compter aussi les employés, non pas seulement les employés qui font l'accueil. Certains sont affectés à des déchetteries, mais d'autres tournent pour pouvoir suppléer. Parce qu'on est ouvert le samedi, le dimanche aussi, pour permettre à la population de pouvoir apporter... parce que la plupart du temps, c'est le samedi, c'est le dimanche qu'on coupe nos déchets, qu'on fait notre jardin. Donc il est important que des déchetteries soient ouvertes le dimanche. Elles ne le sont pas les 18. Combien d'employés, vous disiez? Il faut aussi compter les chauffeurs Polyben qui vont enlever et ramener ces caissons. Et puis des prestataires qui suppléent aussi... nous fonctionnons avec aussi le tissu local de prestation, donc c'est environ 50 personnes pour gérer tout ça.
Il faut bien s'imaginer à la fois ce que ça représente.
Bien sûr.
Alors venons-en quand même au gros... Oui.
Et pour continuer, donc là c'est l'apport volontaire sur les déchetteries, mais il y a aussi la notion de collecte. Ce sont des chauffeurs, des rippers, c'est 33 bennes à ordures ménagères dont les plus grosses font 28 tonnes.
Matériel impressionnant aussi.
Ce sont aussi des entreprises, notamment Suez, Nicolin, qui font la collecte à la fois des ordures ménagères sur Narbonne et Narbonne-Plage, mais aussi donc du tri sélectif, une partie, les colonnes. Il y a un prestataire aussi qui collecte le verre. Le verre, c'est 5000 tonnes par an. Je vous donnerai quelques chiffres après sur la performance. Donc une belle organisation qui doit être faite par des professionnels qui sont sur le territoire tous les jours sur le terrain à collecter nos déchets. Et nous enfouissons 53 000 tonnes de déchets
à
Lambert par an. Et donc c'est réellement notre sujet. Comment pouvons-nous détourner de l'enfouissement? Moi, c'est mon quotidien. comment détourner de l'enfouissement et valoriser le plus de matière possible.
Oui, l'économie enterrer le moins de choses possible.
Quoi. Enterrer le moins de choses possible. Et donc, on a développé des filières. Moi, je suis très content parce que si on fait le rapport 2021, en termes de performance, on est à plus 14% par rapport au national de collecte de verre.
Ah oui, oui. Donc on est un bon élève.
Et on est à plus 10% par rapport à l'année 2020 et on est en progression. Mmh. Alors, c'est parce que une partie de la population a un geste de tri efficient et donc a bien compris que nous avions une empreinte sur l'environnement. Et donc, il faut le savoir, le verre est recyclable à l'infini, mais par contre, ne se dégrade pas. Donc, chaque fois qu'on va jeter une bouteille de verre dans le conteneur de récupération de verre, c'est un geste qui est excellent pour l'environnement et la collectivité.
On est dans un cycle éternel.
Exactement. Nous avons mis en place la facilitation du geste de tri. Aujourd'hui, dans le conteneur jaune, il faut le rappeler tout le temps, on ne se pose plus la question. Dans le conteneur jaune, si c'est un emballage, on le met dans le conteneur
quel
jaune.
Quel qu'il soit.
Exactement. Donc papier, cartonnette, boîte de conserve, on ne les lave pas parce que sinon on gaspille de l'eau. On le met dans le conteneur jaune. Et là encore, on est à plus 21% par rapport au national sur 2021, plus 19% par rapport à nos performances. Donc si vous voulez, il y a une population,
nos concitoyens... Ça suit une croissance...
Tout à fait. Alors ça arrive parce qu'aussi on a densifié le nombre de conteneurs, la proximité, on a réfléchi à implanter au plus près. Il y a encore beaucoup à faire. Hein. Je ne dis pas que nous sommes arrivés, mais cette dualité avec la population, le côté citoyen, le côté de l'apport du geste de tri et la volonté de l'agglomération et de ses employés de se mettre au plus près, ben, ça fonctionne. Mais pour autant, on enfouit encore beaucoup trop.
Ouais, et donc, c'est votre sentiment, quoi.
Mais oui, 53 000 tonnes par an, c'est beaucoup trop. Donc, il faut aussi... On est sur un plan de prévention des déchets. On développe tout ce qui est composteur collectif. Donc aujourd'hui, il y en a 27 sur le territoire et on va essayer de déployer beaucoup plus. Donc une fois que vous avez enlevé votre verre de la poubelle, une fois que vous avez enlevé vos cartonnettes, vos emballages, etc., il vous reste tout ce qui est biodéchets. Et là, vous pouvez composter. Or, tout ce qui vient des poissons, vous pouvez composter. Si vous avez un jardin, vous pouvez prendre un composteur. Et donc, vous verrez que votre poubelle, vous ne la sortirez qu'une fois par semaine. Et nous mettons en place, pour ceux qui n'ont pas de jardin ou quoi que ce soit, des composteurs collectifs ou des lombricomposteurs, mais c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, on essaie de trouver des solutions pour l'intégralité de ceux qui voudraient traiter leurs biodéchets. En 2024, nous serons en capacité à proposer une collecte de ces biodéchets, et on y travaille.
Ça fait partie des secteurs qui sont encore en évolution et en amélioration. C'est important. Voilà. Un petit point peut-être pour éclairer alors l'auditeur qui est aussi un contribuable. L'enlèvement des ordures ménagères, il y a une taxe qu'on appelle la TEOM et qui finance l'essentiel, je crois, de cette collecte.
Qui finance... à la fois la collecte et le traitement des déchets.
Et le traitement.
Voilà.
Et que les contribuables payent, par exemple, quand ils paient leur taxe foncière, il y a une colonne...
Elle est uniquement payée sur la base de la taxe foncière.
Hein, voilà. Et on voit, quand aujourd'hui, on voit TEOM, ça veut dire ça.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Voilà, c'est ça.
Et cette taxe d'enlèvement des ordures ménagères permet aujourd'hui de payer toute la collecte. Donc, quand vous avez... Je prends un exemple le plus fort. L'été... des camions qui tournent 7 jours sur 7 pour collecter nos déchets, il faut forcément payer le camion, l'investissement du camion, les chauffeurs qui travaillent, hein, les rippers, l'essence, et donc toute cette armée, j'ai envie de dire, qui fait en sorte qu'on ne voit pas nos déchets, c'est un coût. Il faut aussi payer le traitement, parce que la valorisation des déchets, etc., bien qu'on en tire des retards. Je voudrais parler du CSR, qui est un combustible...
C'est un sigle, ça veut dire...
Combustible solide de récupération. Et en fait, c'est à base d'encombrants d'écomobilier. Nous avons développé une usine à Lambert avec Suez. On traite tout ce tonnage-là qui vient des encombrants et de l'écomobilier. Et aujourd'hui, on traite 3242 tonnes. Nous fabriquons 3242 tonnes de déchets qui vont alimenter directement des chaufferies, notamment la chaufferie de Lafarge à Port-la-Nouvelle, en circuit court. Et on économise, si vous voulez, des énergies non renouvelables, des énergies fossiles. Donc on est vraiment dans un modèle vertueux.
Voilà. On conclut sur cette deuxième partie sur ce chiffre magique. On se retrouve pour une troisième partie, Guillaume Heras.